Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Dimanche soir à 20h tapante, nous saurons le nom du ou de la nouvelle présidente de la République. Et l'heure qui précède est traditionnellement un moment de tension extrême où l'on laisse la télé allumée en sourdine tandis que défilent les analystes, les experts, les sondeurs ou les envoyés spéciaux font la navette entre les QG. Bref, où tout le monde s'exerce à faire monter la pression et surtout à meubler en en disant assez tout en ne disant rien, histoire de garder l'attention du téléspectateur. Exercice télévisuel quinquennal, en deux tours et qui donne toujours l'impression désagréable de jouer avec nos nerfs. Et bien cette année, ça peut se passer autrement. Il vous suffira de vous connecter sur Arte pour suivre un film au titre prometteur, Jour de gloire, dont le principe est le suivant. On y assistera aux retrouvailles de deux frères qui ne s'étaient pas vus depuis 5 ans, un quinquennat quoi, et qui se retrouvent dans leur village natal du Lot-et-Garonne pour le second tour de l'élection présidentielle. Particularité, ça se passera en direct, en temps réel, et ils apprendront en même temps que le reste du pays le nom de l'heureux élu. Incroyable, non? Passionnant même, un peu, mon neveu. Les deux frères, ce sont Félix Moati et Julien Campani, et ce sont nos invités aujourd'hui. Pop, 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 allez, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paune.
Bonjour Julien Campani.
Bonjour.
Bonjour Félix Moati.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux dans Pop Pop Pop. Alors ce projet foufou, on va en parler en détail avec Charline qui sera également avec nous en direct, live, dans quelques instants, car nous sommes en direct nous aussi. Mais avant cela, j'aimerais que nous parlions un peu de vous, de vos parcours rêvés même. Parce que Félix, par exemple, je commence par vous. Vous dites que, je vous cite, vous êtes passé à côté de votre véritable vie, de votre vie de rockstar.
Eh oui.
Alors vous auriez plutôt été genre quoi, Harry Styles, Mick Jagger, Mariah Carey.
Bah moi j'aurais visé haut, oui, Mick Jagger évidemment.
Mick Jagger,
évidemment. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a empêché de réaliser ce rêve?
Bah une vraiment un profond manque de sens du rythme.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que j'ai pris, je pense, 6 mois acharnés de cours de basse. Ouais. J'étais vraiment affreusement mauvais. Quoi.
Uh-huh.
Mais très très mauvais. Quoi.
Mais sinon, à part la musique, vous aviez tout pour être une rockstar.
Bah quoi donc? Les cheveux peut-être?
Oui, je sais pas, le charisme.
Le charisme. ouais, voilà, mais prononcez comme ça alors, en ce cas-là.
Ouais, ouais, voilà. Bon, et vous, Julien, quel est l'avis qui vous est passé sous le nez? Politicien, rockstar, thanatopracteur, apiculteur?
Je dirais tennisman. Jusqu'à...
Tennisman?
Ouais, jusqu'à 16 ans, je voulais être Pete Sampras. J'avais des posters de Pete Sampras dans ma chambre.
Et alors?
Et ben alors, j'étais pas assez bon pour devenir Pete Sampras, ouais. Et j'ai découvert le théâtre au lycée.
On me dit que vous chantez aussi un peu?
Oui, je chante un peu, j'aime bien chanter, oui, c'est vrai.
Et pas du rock?
Non, ça m'arrive pas trop le rock, mais j'aurais bien aimé à une certaine époque, ouais.
Alors attendez, parce que l'un chante, l'autre pas, il y avait peut-être quelque chose à faire, non? Comme aurait dit Agnès Varda.
Peut-être, ouais, c'est sûr.
Et peut-être pas trop tard?
Bah on va peut-être faire un duo après ce film. Un film fou. On va peut-être faire un
L'idée
duo.
L'idée est lancée.
Bon, avant de parler avec vous deux de ce que vous avez effectivement fait de vos vies jusqu'ici, et il y a beaucoup à dire, je vous propose d'écouter ensemble un morceau d'une rockstar qui s'amusa à faire aussi l'acteur, c'est David Bowie bien sûr, et son Changes de circonstances.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Turn and face the strain.
Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days.
seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Ce que nous écoutions, c'était Changes de Bowie, extrait de Hunky Dory en 71, soit une époque où nos deux invités, Félix Moati et Julien Campagny, n'étaient encore qu'une hypothèse cosmique. Alors, avant de parler de jours de gloire, rendez-vous 19h à 19h sur Arte dimanche, comme je le disais, parlons un peu de vos jours de gloire à vous. Félix, pour vous, tout a commencé avec LOL, le film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau. C'était en 2009, vous aviez 19 ans. C'est un film qui vous a révélé au grand public, mais aussi peut-être coller une image de beau gosse ado éternel avec des vidéos YouTube où vos photos défilent sur de la musique mielleuse. Vous n'en avez pas un peu marre quand on vous parle de LOL, là, comme je suis en train de le faire?
En fait, j'ai eu un flash quand vous avez parlé de ces vidéos YouTube. C'est vrai qu'un pote me les a sorties récemment. Et en plus, le pire, c'est que la tête que j'ai dans le film, que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai une énorme affection, je pensais que c'était stylé à l'époque. Je pensais que j'avais une forme de groove, chose que je n'avais pas du tout. J'avais juste des cheveux presque plein de glu et de colle, j'ai l'impression. Et c'est vrai que c'est mon premier film, c'est un film qui a marqué toute une génération, on m'en parle, c'est normal, hein, il y a des problèmes plus graves.
Il y a des problèmes beaucoup plus graves. Alors, Julien Campagny, vous êtes quant à vous un homme des planches avant tout, un homme de théâtre, et il me faudrait l'émission entière pour citer les pièces dans lesquelles on vous a vu, et vous travaillez avec la troupe du Nouveau Théâtre Populaire qui veut décentraliser le théâtre.
Exactement.
Comment ça, vous ne saviez pas?
Il ne dit rien.
Comment ça, vous ne saviez pas?
En fait, on a passé 4 journées ensemble. En fait, on a plein de choses à s'apprendre.
Alors, décentraliser le théâtre, vous voulez nous en dire deux mots?
C'est une super histoire. Ce qui est très fondatrice pour moi, c'est, en fait, en 2009, j'avais 22 ans et j'étais avec une troupe d'amis, acteurs, des écoles de théâtre parisiennes, et on rêvait de faire du théâtre en plein air pour un public rural, pour un public qui n'est pas habitué au théâtre. On en avait marre un peu du Festival d'Avignon et des habitudes. Et on a construit un plateau de bois en plein air au milieu d'un jardin qui était la maison de la grand-mère de l'un d'entre nous. Et il se trouve que cette aventure a fleuri et que d'année en année, on a voulu faire grandir la chose. La grand-mère en question est décédée, malheureusement. Et quand elle est décédée, on a voulu racheter nous-mêmes la maison. On n'a pas réussi, mais les politiques du coin se sont rendus compte de l'événement culturel que représentait ce festival à ce moment-là. Et ils nous ont proposé d'acheter la maison et qui est devenue en fait un lieu public. Un peu comme la cartoucherie de Vincennes, voilà. Et donc depuis, ce festival, voilà, a bien grandi. Et maintenant, on fait à peu près, 10 000, 11 000 entrées par été. Et on a fait le Festival d'Avignon avec notre trilogie Molière en juillet dernier, qui est Tartuffe, Don Juan et Psyché, qui s'appelait Le Ciel, la Nuit, la Fête.
Félix, vous n'étiez pas au courant de cette histoire?
Non, et je trouve ça génial. Hein. De toute façon, c'est le grand enjeu à venir. Je pense que c'est la décentralisation, de toute évidence.
Julien, vous étiez récemment sur scène dans La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français.
Je peux pas taper aux portes des appartements parisiens comme je suis entré dans toutes les baraques de Corrèze, on va se foutre de ma gueule. Je pensais que les Corréziens étaient mon unique source d'inspiration populaire, mais je me trompais, hein.
Qui tu espères convaincre avec un discours aussi débile?
Le petit artisan, le petit commerçant, le retraité de la Côte d'Azur et la rentière de Neuilly qui craint pour son patrimoine. L'aventure individuelle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vous.
Vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, que vous avez coécrit avec Léo Cohen-Pepperman, donc.
Exactement. Comme ça qu'on dit
Paperman. Ouais, exactement. Okay. C'est comme ça. C'est le metteur en scène du spectacle avec qui on coécrit en fait une série entière qui s'appelle Huit Rois et qu'on va finir une série théâtrale donc qu'on a prévu de finir en 2027. En fait, on écrit 1958-2027. Mmh. Il y a un arbre généalogique d'une famille française comme ça qu'on suit sur 4 ou 5 générations et en fait, on représente le pouvoir et c'est une histoire de la 5e République comme ça avec humblement, on a l'ambition de répondre un peu aux histoires de Shakespeare qui avait raconté la vie des rois d'Angleterre. On voulait faire un peu pareil.
Alors attendez, parce que là, Jacques Chirac, dimanche soir, le moment de l'élection présidentielle, vous êtes frappé d'un tropisme présidentiel peut-être, non?
C'est étonnant, mais je sais pas pourquoi ma vie est reliée au destin de la France. Et peut-être que j'ai un destin présidentiel, je sais pas, peut-être que c'est ça qu'il faut comprendre.
Voilà, sans nommer un candidat encore en lice, ce qui nous mettrait tous dans l'embarras ici, est-ce que cette pièce est d'actualité? Ou bien des Chirac, on n'en fait plus.
On essaye en tout cas de pourquoi parler du passé si ce n'est pour éclairer le présent, dirais-je. Mm-hmm. En tout cas, c'est hyper intéressant de traiter Chirac parce que Chirac, c'est un personnage qui traverse 50 ans de vie politique et quand on le joue, ce qui est incroyablement fascinant, c'est que quasiment, tout le monde, toutes les générations ont un rapport avec lui. Donc il y a un rapport affectif et ça permet de parler. On voulait commencer par lui parce que ça, pour rentrer dans la 5e République, quel meilleur personnage qu'il a quand même connu la fin de la 4e jusqu'à son déclin où c'était vraiment l'arrivée de Macron quoi. Mmh. Donc c'est formidable de parler du présent à travers ce passé là. Ouais.
Alors Félix Moati, je me tourne maintenant vers vous. Parce que j'adore ce bruitage de tabouret, mais aussi parce que je vais changer de sujet. Vous êtes passé derrière la caméra en 2019 avec ceci.
Yvan traverse un épisode compliqué de sa vie avec votre cancer.
Je n'ai pas de cancer.
D'où vous envoyez une lettre de refus à mon père, vous n'êtes pas censé être ami?
Le roman de votre père. Vous l'avez lu?
C'est si mauvais que ça. Vous voulez un café?
Non, c'est pas Tolstoï, quoi.
Ton frère écrit des poèmes érotiques qu'il distribue à sa classe. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux?
Alors, il s'agit de votre film Deux fils, avec notamment Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier. C'est une histoire de famille dans laquelle chacun cherche à changer maladroitement de vie, mais pas pour devenir une rockstar.
Non.
Vous, c'est votre obsession, les autres vies possibles.
Ah oui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je crois qu'il y a une... excusez cette pédanterie momentanée, mais je crois qu'il y a une phrase de Rimbaud qui dit « À chaque homme, plusieurs vies me semblent dues », qui est une phrase qui m'a toujours beaucoup marqué. Je pense qu'à chacun d'entre nous, plusieurs vies nous sont dues, effectivement. Il y a toutes nos vies déçues, toutes nos vies fantasmées, toutes nos vies, nos autres vies possibles. Toute la notion du double et de la contre-vie, chère à Philippe Roth, par exemple, ou de la contre-histoire. Politique ou personnel, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, effectivement, et dans ce film, c'est que des gens qui ont la sensation, puisque c'est généralement une erreur, qui ont la sensation d'être passés à côté de leur véritable vie.
Mmh. Ouais. Mais alors, je vous pose la question à tous les deux, puisque je vous ai sous la main, est-ce que être acteur, justement, ce n'est pas se contenter d'une seule vie?
Oula, je serais bien incapable d'y répondre. Pour Julien, en tout cas, c'est d'incarner Chirac, qui le ramène à lui-même, apparemment. Moi, je sais pas. Non, moi, j'essaye de rassembler ma vie. Ouais. Mais évidemment insatisfaisant.
Mais en jouant des rôles.
En jouant des rôles.
En prenant des masques.
Ouais, voilà.
Et vous, Julien?
Moi, il y a une expression qui est très 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 à la mode, mais depuis longtemps déjà, qui est qu'il faut absolument être soi-même. Mm-hmm. Et j'avoue que c'est une des choses qui me terrifie le plus au monde. Et je crois que la seule réponse que j'ai trouvée, c'est de me multiplier plutôt, et de sortir de moi-même. Donc voilà, oui, je dirais que oui, ce métier-là me permet au moins de sortir de moi, ce qui est déjà pas mal.
On est tous fragmentés, quoi.
Oh, je garde cette phrase.
C'est pas mal, non?
Nous sommes tous fragmentés.
C'est la tagline de Pop.
Pas mal, nous sommes tous fragmentés. Bon, Félix Moati, Julien Compagnie, nous allons être rejoints par quelqu'un de très très fragmenté, justement. Charline Roux, pour parler avec vous de Picardie, bien sûr, mais surtout de Jour de Gloire, ce projet de film en direct de Jeanne Frankel et Cosme Castro, qui sera tourné et diffusé en live ce dimanche à 19h sur Arte. Mais avant cela, écoutons ensemble, si vous le voulez bien, ce morceau de Violent Femme qui me met, moi, de bonne humeur, c'est Blister in the Sun.
Check you out. Let me go on.
walk and I strut, I stop and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, strut, I stop and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one.
France Inter, Antoine Decaune, Pop Pop Pop.
Et voici que sur l'hymne national de la Picardie et des autres régions françaises, Charline Roux nous rejoint, solennelle présidentielle.
Dieu m'en préserve. Bonjour.
Charline, je me tourne donc vers vous. Alors, que voilà. Savez-vous de Jour de Gloire, cet ovni télévisuel qui sera diffusé en direct dimanche à 19h?
24 avril 2022, 19h, la France attend que le JT de 20h affiche le visage de son président. Dans une petite commune du sud de la France, Julien attend son petit frère, Félix. Ce dernier arrive de Melbourne et vient régler quelques formalités liées au décès de leur mère. Félix a d'ailleurs raté l'enterrement, ça fait 5 ans qu'il est parti. Julien, lui, est resté auprès de sa mère malade. En ce jour particulier, à bien des égards, Félix veut voter, pas Julien, particulièrement désabusé. Cette fiction en direct nous promet que deux frères que tout oppose vont confronter leurs souvenirs et vivre une aventure intime. Cosme Castro, le co-scénariste et co-réalisateur de Jour de Gloire, parle de la politique comme, je cite, de la météo du film. Alors, pour le jour J, est-ce que vous avez prévu plutôt t-shirt, plutôt kawaii, en d'autres termes, est-ce que vous êtes anxieux à l'idée qu'il puisse y avoir des intempéries?
Je pense qu'on l'est tous collectivement. Hein. Ouais, moi, je peux pas. En fait, je vais jouer dimanche soir avec mon anxiété de jeune homme qui attend un résultat comme mes millions de compatriotes. C'est la première fois que je pensais pas pouvoir parler des autres en disant mes compatriotes, mais là c'est le cas. On fait communauté ce soir-là. Et c'est vrai que non, bien sûr, je suis complètement terrifié. Moi, j'ai aucune sérénité par rapport à ce deuxième tour.
Julien.
Bah, je partage ton anxiété. Après nous, je sais pas, j'ai l'impression d'être en jeu au moment où on va vivre cette électricité-là. Ça permet d'exorciser un peu toute cette anxiété. C'est après, vrai. À 20h05, on va dessouler, ou on va se saouler. On
peut-être.
Va voir. Mais oui, l'idée d'affronter ça comme ça, ou de vivre ça en jeu, me plaît plutôt, quoi.
Et alors, comment est-ce que Jeanne Frankel et Cosme Castro vous ont expliqué leur projet et leur idée du méta-cinéma, soit cet art consistant à projeter des films en même temps qu'ils sont tournés ou à tourner des films en même temps qu'ils sont filmés.
Comment vous avez réagi? Franchement, j'ai toujours pas compris. Non, mais je sais qu'on va faire
c'est
un plan
folle.
Séquence et que c'est projeté en direct. Ce qui me paraît tellement infaisable, en fait. Moi, c'est ça que je trouve irrésistible chez eux, c'est qu'ils font la chose, par définition, la plus infaisable techniquement pour des acteurs, mais surtout techniquement. C'est-à-dire que les mouvements de caméra, le réel va faire effraction, en fait, dans notre fiction. Mm-hmm. C'est sûr, par définition. Il y aura forcément, à un moment donné, une voiture qui va passer, à un moment donné, des intempéries à venir. Nous, acteurs qui seront peut-être un peu bancals à un moment donné. Enfin, le réel va s'inviter dedans. Et c'est incroyable.
Alors, si simultanément et sur les autres chaînes, tout le monde sera en boucle, comme je le disais tout à l'heure, pour faire monter la mayonnaise, vous représentez là, à ma connaissance, la seule alternative possible, et une alternative tout à fait idéale, mais ça veut dire repasser donc par la fiction pour découvrir le réel.
C'est exactement ça.
Exactement. Ce que je trouve merveilleux avec ce que Jeanne et Cosme proposent, c'est on est inondé d'actualité, et donc eux, ils essaient de donner du présent. Enfin, c'est un peu la différence entre l'actualité et le présent. Mm-hmm. Et enfin, je trouve que c'est une excellente manière de traiter la politique, parce que souvent on oublie que la politique, c'est pas que de l'info, quoi. C'est des affects, c'est des gens, c'est des émotions, voilà.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a, pour le coup, convaincu tous les deux de faire ce qui ressemble fortement à un saut dans le vide? Est-ce que la peur, c'est un bon moteur pour accepter l'émission?
Moi, je trouve que, oui, effectivement, ce qui m'a séduit, c'est le caractère, comme je disais tout à l'heure, complètement infaisable de la chose. Le défi technique, le défi en termes de jeu pour un jeune comédien, voilà. Et effectivement, comme le disait Julien, cette manière, finalement, de passer par la fiction pour découvrir le réel et pour découvrir le présent, c'est quelque chose qui est ravissant, je trouve, en fait.
Voilà. Ravissant.
Ravissant, au sens du ravissement. Mmh. Ouais. Voilà.
Julien, vous êtes ravi ?
Ah, moi, je suis ravi. Oui, je pense qu'on fait pas ce métier pour trouver de la sécurité. Ouais. Moi, plutôt pour vivre des vies de pirates.
Non, mais enfin, il y a là, trouver la sécurité et faire ce que vous allez faire. Il y a peut-être un palier intermédiaire.
Non, parce que vous faire flipper. C'est, à ma connaissance, c'est une première dans l'histoire de la télévision même. Ça ne s'est jamais produit.
Je crois.
Il y a eu des grands directs. Mmh. Évidemment, il y a des directs tous les jours. Évidemment, il y a eu des grandes dramatiques. Il y a eu des pièces de théâtre en direct et tout. Mais là, une fiction pure. Qui joue, qui rebondit sur l'actu, sur un moment, hein, dans un moment de tension extrême du pays, à ma connaissance, ça ne s'est jamais produit.
Et non, je crois que c'est assez inédit, ouais. Je crois que c'est assez inédit, mais à vous écouter, j'ai presque envie de dire, moi, je peux pas, en fait, j'ai le virus, les gars. Je pourrais pas venir.
Ah bah non, parce que nous, on attend de voir maintenant, on est un peu.
Ouais. Ah bah on sera tous devant le poste à 19h dimanche, je vous le garantis, ouais. Non, on compte même énormément sur vous.
Pour vous divertir.
On va avoir besoin, ouais.
C'est sûr.
Vous avez tous les deux l'expérience des planches, particulièrement vous, Julien. Donc, délivrer un texte en live en une prise, vous êtes apte. Mais là, effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'il s'agit d'une fiction filmée, plan séquence, déambulation dans le village, le tout minuté pour ne pas déborder, puisqu'il faut qu'à 20h, la résolution arrive. Alors, si on reste dans l'univers de la scène, ben, au théâtre, on ajoute presque le ballet, en fait. Il y a quelque chose de très chorégraphié.
Bah effectivement, puisqu'on passe par la fiction, mais on a quand même un immense principe de réalité, c'est d'être là à 20h. Pour que cette fiction qui concerne deux frères, voilà, que tout oppose, vienne rejoindre la grande histoire, quoi, à 20h précise, et qu'on découvre ensemble le visage du président de la République.
C'est exactement de chorégraphie dont on parle, ouais. En fait, parce que moi, par exemple, je conduis une voiture dans toute la première scène du film avec Félix, et j'ai des balises au bord des champs où je suis censé arriver sur telle réplique. Alors, ça, c'est vraiment de l'ordre du ballet, exactement, quoi.
Ouais,
c'est cette précision-là qu'on cherche, tout en gardant la fluidité.
Ouais. Et la musique sera, elle aussi, jouée en direct par Flavien Berger. Est-ce que vous répétez aussi avec lui ?
Ouais.
Ouais.
Je crois. Hein.
Mais il est arrivé hier et on va en savoir plus demain.
Voilà.
Mais oui, il est sur place dans le décor.
Et de manière assez drôle en plus.
Oui, sans rien révéler, il a un petit rôle dans le film.
Ouais, attendez, ça signifie qu'il va vous suivre comme un barde suivait un chevalier autrefois.
Un cœur,
dis-moi si j'en crois les reconstitutions historiques à la Monty Python.
Il y a un peu de ça, et c'est-à-dire qu'il apparaît dans le film et il fabrique la musique en direct.
C'est ça qui est merveilleux avec Jeanne et Cosmé, c'est qu'ils ont 7 ans de métacinéma derrière eux, et c'est toujours un mélange de projets gigantesques et en même temps de talents du petit artisanat. Et en fait, ils mettent toujours un peu un côté félinien comme ça, toujours à mettre en valeur la manière dont on fait les choses, un peu comme si on était des enfants en train de jouer avec des bonhommes, et pourtant on est en train de faire un film en direct devant des millions de personnes, quoi.
Comment on fabrique, quoi.
Ouais, exactement.
Bon, alors ça, c'est dimanche soir à 19h sur arte.tv.
Absolument.
Je précise.
L'histoire familiale qui lie ces deux garçons, on l'imagine, est déjà écrite. Ce sont les circonstances des retrouvailles qui peuvent être fluctuantes. C'est donc un scénario évolutif que vous apprêtez à jouer. Donc, jusqu'au 24 avril, on imagine que le texte peut bouger. Comment est-ce que vous travaillez dans des circonstances si particulières ?
À nouveau, crise d'angoisse.
J'ai l'impression d'être là pour. Moi, je suis là pour vous faire de l'eczéma. Hein. Après, vous faites comme vous voulez.
Déjà que je suis pas très serein de nature. Comment on travaille ? Non, écoutez, après, le texte est quand même à 90% écrit, je dirais. Ouais. Effectivement, si le 24 avril au matin, il y a l'invasion de la Suède par la Russie, par exemple, là, on va l'incorporer. C'est là où je dis que le réel va faire effraction dans la fiction. On va voir, hein, de toute façon. Il y a une arche comme ça, une dramaturgie, et puis on va s'adapter.
Julien Compagnie, c'est une émotion qui est comparable, vous qui faites beaucoup de théâtre, à celle d'une première.
Exactement. Ouais. Moi ça me c'est très 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 proche du théâtre, au sens où il y a un saut dans le vide. Et l'accident peut être heureux. On joue avec les accidents, on se confronte. Voilà, il y a pas de respiration du public, il y a pas de tout, il y a pas de rire, mais il y a cette dimension là du ça n'aura plus jamais lieu. Ça n'aura plus jamais lieu. Enfin, c'est ça le théâtre. Ouais.
C'est une des choses les plus excitantes que j'ai entendues depuis longtemps. Ce projet dimanche soir à 19h sur arte.tv avec vous deux, les amis. Et on sera tous là devant à vous soutenir et à vous suivre pendant 7h05 jusqu'après le dénouement. Jusqu'à 20h05. Bon, on continue à en parler dans un instant. Julien Compagnie et Félix Moati. Et on va continuer à parler de Jour de gloire puisque c'est le titre, mais il est déjà à 16h presque 30. Ça veut dire que c'est l'heure des pop news.
L'amour et le tonnerre, tel est le programme pour le fils d'Odin, dieu d'Asgard, j'ai nommé Thor dans Love and Thunder, nouvel épisode par l'excellent Taika Waititi. Après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, Thor vit des aventures spatiales en compagnie des gardiens de la galaxie et se pose bien des questions.
These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am. I want to choose my own path. Live in the moment. My superheroing days are over.
Évidemment, pas le temps pour trop d'état d'âme. Un déchiqueteur de dieu, oui oui, nommé Gore, prend Thor comme cible. Il lui faudra donc des alliés. Thor, Love and Thunder avec Chris Hemsworth, mais aussi Christian Bale en grand méchant, Russell Crowe en Zeus, Natalie Portman en Jane Foster, mais pas que. Et Tessa Thompson en Valkyrie, ce sera le 13 juillet dans les salles.
Après The Last Dance et Michael Jordan, une nouvelle série documentaire consacrée à un autre mythe du basket.
Introducing the towering point guard from the Midwest, number 32, Irvin Magic Johnson, it's showtime!
I was assigned to cover Irvin's first game. He did stuff I'd never seen in a basketball court before.
So the sports writer came in and he said, I want to give you a nickname.
About Magic?
He's like, yeah, right. My boy's not going to call me Magic.
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 I learned how to smile because of Magic Johnson.
They call me Magic, c'est aussi mon surnom. Avec évidemment le témoignage de l'intéressé, mais aussi d'autres joueurs comme Dwayne Wade, Larry Bird, Shaquille O'Neal ou encore de Samuel L. Jackson. Si on se fie à la bande-annonce, They Call Me Magic arrive le 22 avril sur Apple TV+.
Kirk Hammett, guitariste, soliste et virtuose de Metallica, dévoile sa musique solo. High Plains Drifter, c'est ce que nous écoutons actuellement, un titre atmosphérique extrait de l'EP Portals de Kirk Hammett que l'intéressé décrit comme la BO des films de votre esprit. Et l'EP sortira le 23 avril.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Je pourrais avoir encore un petit peu de la musique de Kirk Hammett, s'il vous plaît, là. Ah là, d'un seul coup, j'étais dans... Voilà. Ah, j'étais dans un spa, là.
Dans quel film?
Ah, c'était bon.
Parce que c'est la BO d'un film de votre vie, de votre esprit, donc il se passe quoi, là?
Je sais pas, c'est un western, sans doute. C'est beau, je vois ce soleil qui se couche. Je vois ce cow-boy solitaire qui s'éloigne à l'horizon.
C'est pas vous, donc,
non,
de
c'est
fait.
Pas moi, c'est pas moi. Non. Ah, non, vous cherchiez, là. Non, pas du tout. Là. Je voulais juste me replonger dans cette atmosphère. Kirk Hammett, non, ça me plaît beaucoup. Félix Moati, merci, on arrête la musique. Félix Moati, Julien Compagnie, nous aurons donc le plaisir et la trouille de vous voir dimanche soir à 19h, une heure avant le résultat des élections. Alors, il y a évidemment des raisons d'avoir peur qui sont liées au tournage, peut-être aux intempéries, aux aléas du direct, comme on dit. Mais il y en a aussi qui peuvent être liés au résultat même de l'élection. Donc, vous êtes tous les deux des acteurs, vous allez jouer quelque chose. Mais il y a un moment où la frontière entre l'acteur et les citoyens va être difficile à tenir ou pas?
Bah évidemment, enfin, je ne sais pas pour toi, Julien, je sais que tu peux te dévoiler politiquement. Non, mais en fait, c'est évidemment, on sera protégé par des personnages.
Ouais.
Mais en fonction du résultat, moi, je me vois difficilement ne pas m'effondrer. Et donc, encore une fois, le réel va faire effraction. J'ai l'impression que c'est une phrase que j'ai apprise par cœur.
Mais
encore une fois,
on triche pas avec la sidération.
On
par
triche
exemple,
pas tricher
j'imagine.
Avec la sidération et avec quelque chose qui est si important et qui dépasse la volonté de faire ce film jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la grande histoire devient encore plus importante et nous dépasse. Quoi. Enfin, voilà.
Mais dans le scénario, c'est les 5 dernières minutes hein, où on va vraiment recevoir ce résultat. Cette possibilité, voilà, c'est la dernière séquence, c'est plutôt une séquence en creux, hein, pour recevoir les choses, donc sans rien dévoiler, évidemment. Il y a l'espace pour justement laisser se confondre le citoyen et l'acteur. Voilà.
Alors, on le disait, tout est chorégraphié, préparé, mais est-ce qu'on vous demande, est-ce que vos deux co-réalisateurs vous ont demandé ceci, de rester perméable à ce qui se passe autour de vous et...
De toute façon, on est obligé, on y est contraint, hein, puisqu'on tourne dans un village. Alors certes, on a une solide équipe technique, on est une soixantaine sur le plateau, hein, c'est beaucoup. Donc ils vont bloquer les rues, tout ça, mais on n'est jamais à l'abri d'imprévus. Donc on doit jouer avec, de toute façon, puisqu'on ne peut pas s'arrêter. Donc on y sera contraint, et c'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire qu'on devra rebondir avec les événements du réel. Quoi.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt, par exemple, à improviser avec le... Avec les gens que vous allez croiser en route, avec. Vous avez le droit de le dire, pas le droit.
On s'y prépare.
Alors, est-ce que vous avez des trucs dans la préparation pour éviter les faux temps, les temps morts, garder le tempo
L'exomil, ça s'appelle. C'est très efficace.
Alors, n'en abusez pas.
Surtout pas.
Considérablement ralentir le rythme.
C'est vrai aussi.
Non, mais comment ça se travaille, sans blague? Là, ça m'intéresse de savoir comment on prépare un.
Bah, ça se travaille de manière assez musicale, je crois. On n'est pas entré vraiment dans l'orfèvrerie du travail. Mais disons qu'on a des rendez-vous. C'est très structuré. Par exemple, il y a un moment où on sait qu'il y a un morceau musical, tout d'un coup il y a la voix off qui intervient. Qu'on parlait de chorégraphie, en général on danse sur de la musique, quoi. Notre musique, on va essayer de l'inventer pendant 4 jours là en travaillant. Mais une musique à deux, une musique avec l'équipe technique, enfin c'est. Oui, c'est ça.
Nous, pour notre jeu, en fait, je pense que les contraintes techniques vont nous servir, précisément parce qu'on sait que, par exemple, si on fait un trajet en voiture, au poteau à 30 mètres, on doit s'arrêter pour sortir de cette voiture, puisque la caméra nous y attend. Donc, à partir de là, étant contraint par la technique, on est obligé d'adapter notre jeu à ça. Et en fait, la technique va précisément être notre cadre.
Là, on dit souvent que la comédie, c'est du rythme. Là, on est en plein dedans, quoi. C'est à la minute près.
Oui, parce qu'il faut préciser que c'est une caméra. C'est un plan séquence, ça veut dire que c'est un plan ininterrompu pendant 65 minutes.
C'est ça.
Avec un seul axe.
Ce qui est fou. En fait, il y a plusieurs caméras, mais
Il y a encore des inconnus pour nous.
Il y a encore des inconnus.
Si vous avez vu Les Fils de l'Homme, c'est pareil.
Je sais juste qu'il y a un drone, à un moment.
Il y a un moment, il y a un drone. Voiture,
et qu'il y a... Bon, mais c'est globalement quand même un plan séquence.
Globalement. Une caméra ininterrompue, quoi.
C'est ça.
Et les soirées électorales sont souvent des moments familiaux particuliers pour chacun. Et quel genre de souvenirs est-ce que ce genre de soirées sont associés chez vous? Est-ce que vous avez des souvenirs marquants? Parce que là, il va être question de ça aussi.
Très marquants. Ouais. Bah, 2002, je pense, pour la génération de Julien et moi, ça a été quand même assez fondateur.
Premier vote?
Non, j'avais 12 ans.
Ah oui, c'est ça, vous êtes très jeune.
Je suis né en 90, quoi. J'ai 32 ans, je suis père de famille. Mais 2002, ça a été très, très fondateur pour moi. Et après, il y a eu 2012, quand même, là, pour le coup, ma première présidentielle. J'ai un souvenir très festif de cette soirée-là.
Julien?
Moi, c'est surtout 2012, c'est vrai, parce qu'il y avait... je vais encore révéler mes convictions de citoyen sans le vouloir, mais il y avait quand même un désir de faire la fête...
Très fort.
Très fort, j'irais malgré tout, sans trop m'épancher.
Oui, parce que... ne nous épanchons pas trop.
Et deux personnages comme ça, que tout oppose, y compris... on l'imagine sur leur vision de l'avenir de la politique. Il y a aussi une question sous-jacente qui est des opinions politiques divergentes sont-elles une cause de rupture? Est-ce que l'entente peut être idyllique quand on vote différemment?
C'est une vraie question. Moi, j'aime le conflit. Moi, je ne demande pas aux gens de penser comme moi. Certainement pas. C'est pour ça que, quelle que soit l'opinion de quelqu'un, au soir du second tour, même, et même si on voit qu'il y a des Frances complètement fracturées et qu'on pense irréconciliables, c'est pas vrai. L'opinion de quelqu'un, c'est sacré. Moi, je suis démocrate jusqu'au bout. Et moi, je demande pas aux gens d'être d'accord avec moi. Au contraire. Moi, plus il y a du débat, plus il y a de la discussion, plus ça me plaît.
Alors, pardonnez-moi, mais je reviens quand même à ce rendez-vous de 19h dimanche soir sur Arte.tv, parce que vraiment, je vous regarde vraiment comme si j'étais...
comme si c'était la dernière fois que vous voyez.
Pas du tout, parce que je suis très, très épaté par ce projet. Mais je voudrais, pour que ce soit très clair pour nous et pour nos auditeurs, donc ça se passe dans le Lot-et-Garonne, d'accord, dans un village.
Ouais.
Il y a ces deux frères qui se retrouvent après avoir été séparés pendant 5 ans. Il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère, c'est ça?
À cause du coronavirus.
À cause du corona, d'accord. Donc il revient, et là il revient pour voter pour le deuxième tour de l'élection présidentielle.
Voilà. C'est ça.
Ça, c'est le point de départ.
C'est ça.
Donc vous vous retrouvez, et là, vous allez déambuler ensemble.
Jusqu'à la mairie. Pour aller voter.
Dernier moment, parce qu'il sera presque 20h.
C'est ça. Sachant que dans la vraie vie, j'ai fait procuration, je tiens à dire. Mais voilà, et en fait, ça ne se passe pas comme ça, et c'est le lieu d'une confrontation entre deux frères, voilà. Effectivement,
Oui, bien sûr, l'histoire intime qui retrouve...
Il y a une relation politique, mais encore une fois, pas politique au sens du monde politique. C'est qu'il y a une figure de réussite sociale, c'est un expat qui vit en Australie, et ça, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a 5 ans à peu près 5 ans de plus, et qui est resté dans son village, s'occuper de sa mère, qui ne travaille pas. Donc voilà, c'est ces deux figures-là qui se confrontent et qui se retrouvent, quoi, avec tout ce que ça peut charrier de sentiments.
Ça vous parle, Félix, ces histoires de deux frères, non?
Ouais. Mmh. Bah, moi, j'avoue que j'y reviens toujours. À chaque fois, je me dis, bon, je vais me raconter d'autres histoires. Et non, en fait. C'est moi d'ailleurs qui ai écrit Abel et Caïn.
Romulus et Rémus, enfin, tout ce
voilà,
qui
tout
est.
Ça, c'est moi. Tout ça, c'est
bon, et juste quand même pour finir, parce que ça m'intrigue tellement. J'ai mille questions à vous poser, mais vous avez ce texte, une espèce d'arche qui a été écrite. D'accord. Donc, vous partez d'un point A pour arriver à un point B. Vous allez avoir, par exemple, une oreillette avec des indications
Julien, oui, pas
dedans.
C'est un gros menteur. Il a demandé, mais il n'y en aura pas.
Non, il n'y en aura pas. Il n'y a pas d'oreillette.
Il n'y a pas d'oreillette.
Il n'y a pas de plan B, en fait.
Non, mais je veux dire plan B juste pour vous donner aura, une indication du genre, il y a ça qui arrive là.
Un peu confronté à l'inconnu, mais normalement, il y a la régie qui nous donnera des tops, comme on dit.
Oui, des indications.
Mais on n'aura pas d'oreillette, a priori.
Mais vous ne voulez pas qu'on ajoute une contrainte supplémentaire? On rend tout ça interactif. Les gens qui regardent sur Arte.tv peuvent va voter, voir à gauche, à droite, un truc un peu...
Non, ok. Ce serait pas mal à penser pour celui qu'on fera dans 5 ans.
Vous pourriez le faire
Félix taper, hein.
En kilt.
Ouais. En kilt, ouais,
pourquoi pas? Moi, on peut vous lancer des défis encore jusqu'à dimanche soir. Bon, c'est dimanche à 19h sur Arte.tv, jour de gloire. Et Félix, Julien, bah, pour vous entraîner pour dimanche, nous avons nous aussi écrit une petite fiction radiophonique dont vous avez le texte sous les yeux. Alors, écoutez bien, nous sommes le soir des résultats et contre toute attente, c'est Jean Lassalle qui remporte la présidentielle.
Jean Lassalle est le nouveau président de la République. Charline, une réaction?
J'ai toujours adoré la garbure, le confit de canard... Non, je sais pas, je suis sans voix. On est sûr du résultat, là?
Je vous interromps un instant car le président Lassalle s'exprime en direct.
Oh! Oh! Ouais, on m'entend pas, là! Alors! Hé! Hey, oh! Le microphone, il est raté, il est relié à l'internet! Oh! La France se m'entend, là, oui, oh merde!
Visiblement, nous avons un souci technique.
Monsieur le Président, nous vous entendons.
Ouais, mais ça marche pas! Oh, il faut que j'appuie sur un bouton, là! Putain, mais ça marche pas, leur truc, oh!
Eh bien, c'était la première intervention de notre nouveau président, Jean Lassalle.
Le quinquennat va être long.
Merci infiniment Félix Moati, merci Julien Compagny.
Le président des 7 d'or vient de téléphoner, il veut pas du tout qu'on remette la cérémonie à l'ordre du jour. C'était pour vous prévenir.
Et merci Charles Dunod pour cette contribution à l'effort de guerre. Bon, nous continuons à parler encore dans un instant de jour de gloire, mais il est quoi? Il est 16h42 maintenant, oui, et nous allons enchaîner avec la pop liste. Vous restez surtout avec nous dans quelques instants. On va voir vos propositions. Non pas en tant que ministre de la Culture, mais en matière de pop culture, c'est-à-dire la fameuse pop liste. Ce sera juste après Lou and the Yakuza, et le morceau c'est Qui c'est ?
T'étais folle déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute, mais c'était celle des autres. J'aurais dû t'aider à soigner tes maux. On finira de haut commissariat. La nuit bercée dans tes bras, c'est tout ce que je demande de toi. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit. À te dans le mâchepit, au piano Yeezy. À te dans le mâchepit, au piano Yeezy. Qu'est-ce que ça? Les gens nous regardent et que j'ai rien à voir. Vous avez la boca, ils veulent tous être comme toi. Ils ne peuvent pas, mais ils veulent tous t'avoir. On n'a pas besoin de ça, on est très bien comme ça. Si on en a marre, un jour futur de se voir. Faudra prévoir une signature impaire. Pas que le soir, on finisse dans les tracas. T'es mon territoire, faut la se battre pour t'avoir. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit. À deux dans le mash pit, au piano easy. À deux dans le mash pit, au piano easy. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris.
and the Yakuza Kiss. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
English, motherfucker, do you speak it?
Yes.
Then you know what I'm saying.
Yes.
Describe what Marcellus Wallace looks like.
Julien Campagny, le son qui évoque pour vous la pop culture, c'est, je cite, n'importe quelle réplique de Samuel L. Jackson. Alors donc,
je crois que c'est Félix.
Ah, c'est vous, Félix?
C'est moi, ouais.
Ah bon, on m'avait dit Julien. Alors Félix Moati, quand on évoque la pop culture, vous dites immédiatement donc une réplique de Samuel L. Jackson, n'importe laquelle, nous avons choisi celle-ci, extraite de Pulp Fiction. Ça vous va?
Bah, c'est parfait.
Ouais, maintenant, faut m'expliquer pourquoi.
Bah, je sais pas, c'est le côté Bob à l'envers. Le mec est quand même l'un des acteurs les plus cool de l'histoire du cinéma, je trouve. Mm-hmm. Moi, j'ai essayé de l'imiter, et puis sans grand succès. C'est comme ma vie de rockstar. Dans une autre vie, j'aurais aimé être Samuel L. Jackson.
Allez-y, essayez, on est entre nous.
Essayez un film dans un avion avec des serpents, je suis sûr que ça peut marcher.
Et vous, Julien? Il y a un son en particulier qui vous...
Moi, je trouve que c'est les premières notes de I Will Survive de Gloria Gaynor.
Ah, pas
mal. Parce que ça me plonge tout de suite dans mes 10 ans et puis dans la liesse collective.
Le foot?
Bah oui. Dans France 98, quoi. Ouais. J'ai tout de suite envie de me mêler à mes semblables et à festoyer. Ouais.
Ça vous fait quoi? Ça vous fait quel effet si je vous envoie ça?
Je vais me lever, je vais danser, attention.
Allez-y. Ah bon, on improvise, on est en direct, vous savez, moi ça me dérange absolument pas. Bon, c'est le moment de la pop liste. Nous avons donc demandé pardon de choisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on bafouille comme ça en direct?
Bah, on recommence ou
on recommence?
Ouais, ça va peut-être nous arriver dimanche, donc.
Bah non, vous recommencez pas, vous continuez.
Non, nous, on est obligé de continuer.
Je reprends, pardon.
Excusez-moi.
Bien, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série que vous appréciez en ce moment, et nous avons pioché dans vos suggestions à tous les deux. Alors pour le livre, Julien Campagny, vous avez choisi Le Voyage de Masterna de Fellini. Charline, c'est bien ce film? Enfin, ce livre?
Eh ben, c'est les deux. Enfin non, ça a failli être les deux. Après avoir terminé 8,5, Fellini se lance dans un des plus ambitieux de ses projets. Le Voyage de Jay Masterna, génial mais absolument démesuré et trop coûteux, alors très souvent repoussé, le film ne verra jamais le jour, de rares traces subsistent, elles sont dans ce livre.
Mmh. Vous choisissez donc comme livre un film qui n'a jamais vu le jour. C'est bien ça, Julien.
Exactement, ouais, c'est un synopsis en fait auquel je reviens tout le temps. C'est une sorte de voyage dans l'au-delà selon Fellini. Donc c'est vraiment qu'est-ce que c'est que c'est un peu comme ces films, quoi. C'est un peu un mélange de paradis et d'enfer, grotesque et sublime, où on traverse comme ça le monde des morts avec un personnage qui aurait dû être joué par Mastroianni. Et c'est un peu, c'est devenu après pour le reste de sa filmographie une sorte de matrice dans laquelle il a puisé.
Ouais.
Et puis je sais pas, une sorte de film impossible, ça me faisait penser à ce qu'on va faire dimanche, j'avais envie de le rappeler.
Mais il y a rien d'impossible dans ce que vous allez faire dimanche, ça va être exceptionnel. Félix, vous aviez choisi quoi comme livre, vous?
La planète de Mr. Samler, de Saul Bellow, qui est un auteur que j'adore. En fait, j'adore Philippe Roth, et Philippe Roth voue un culte absolu à Saul Bellow.
Ouais.
Donc par Philippe Roth, je suis arrivé à Saul Bellow, et la planète de Mr. Samler, c'est un bouquin que je commence à lire là, et qui me touche énormément sur un homme plutôt âgé qui se sent en totale inadaptation avec le monde dans lequel il vit, qu'il trouve trop rapide.
Ouais.
Voilà.
Trop.
Ça me touche.
Trop
rapide.
Ouais, trop. Vous pouvez parler un peu moins vite.
C'est vrai que je parle vite.
Il s'appelle comment le livre?
La planète de Mr. Samler.
La planète de Mr. Samler. Je le note. Félix, pour votre série, vous chaussez des crampons puisque vous avez choisi Yellow Jackets d'Ashley Lyle et Bart Nickerson. C'est la version américaine des Gilets jaunes, donc, Charlie?
Absolument pas. Une bande de lycéennes pratiquant le soccer se retrouve seule survivante d'un crash d'avion. Comment ont-elles survécu sur une terre qui plus est hostile? C'est l'une des questions que l'on se pose aujourd'hui puisqu'on les retrouve plusieurs années après, alors qu'elles sont mères, politiciennes, infirmières ou qu'elles sortent de désintox. Une chose les unit, un mystère, et le fait qu'elles soient toutes bien cabossées.
I'll never forget the day I heard their plane had gone missing.
Those girls were special. They were champions.
What really happened out there?
It gives me chills. Not that I believe any of those nasty stories, but...
If someone's digging, we are all fucked.
What does the person who sent these postcards want?
Obviously a threat.
Félix Motte, voilà une histoire inspirée de faits réels. Ouais. C'est ça qui vous intéresse.
De l'équipe de rugby là, Argentine, ouais. qui avait fini par survivre grâce en ayant recours au cannibalisme. Mmh. Voilà, tout simplement. Et là, c'est vrai que c'est assez. Elle est très impressionnante cette série. Déjà, les actrices sont assez exceptionnelles. Et les allers-retours entre ce traumatisme originel qui les unit et leur vie présente sont très bien menés. Donc j'ai été très saisi par cette série.
Ok, une question un peu personnelle, mais si l'un de vous deux se trouve obligé de manger l'autre, ouais. par quelle partie de son anatomie commencerait-il ?
Mon Dieu,
question. Je vous pose à tous les deux.
Franchement,
waouh. Ça va vous ?
Ça va très très bien.
Oui. Je parlais de tes cheveux tout à l'heure.
Ouais, voilà.
Une belle salade.
Ouais, c'est ça. Ouais. Salade de cheveux.
Une petite salade de cheveux pour Félix.
Ça peut être pas mal.
Et vous, Julien ?
Une
salade de barbe.
Une salade de barbe. C'était quoi votre choix de série à vous ?
C'était Scenes from a Marriage de Agay Levy.
Ah, ouais, super.
Avec beaucoup de rigolade.
Ouais, c'est super drôle, on se poil.
Un couple qui n'en finit pas de se casser la gueule.
Exactement. Vous savez quoi ? J'ai la bande-annonce sous la main. Écoutez.
You just believe as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
But there's nothing left to say.
What is this? What is this thing where we can't talk?
This is a place.
Do you know how long I've wanted to leave? I'm gonna go out of my mind if I don't leave right now.
Right now, like right this second.
If I don't leave right now, I know I'm never going to.
Oui, c'est vrai que ça a l'air assez dramatique comme ça, mais. Beaucoup de charme.
Il y a Oscar Isaac déjà. Donc
Ah bah si, il y a Oscar Isaac.
Et Jessica Chastain.
Ouais. C'est une espèce de règlement de compte à l'intérieur d'un couple.
Exactement, bah c'est le remake du film de Bergman. Mm-hmm. Voilà, c'est 5 épisodes vraiment concentrés sur deux acteurs qui se déchirent, se retrouvent, se déchirent. Enfin, c'est magnifique.
C'est magnifique.
C'est pas un peu vous dimanche soir, ça?
C'est ça.
C'est un peu ça.
Tu joues Jessica ou tu joues Oscar ?
Bon, votre choix de film, Julien, c'est le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian. Charline, ce promeneur, il n'avait pas une écharpe rouge par hasard ? Là, ça me dit vaguement quelque chose.
Christophe Barbier ? Alors que le président livre ses derniers combats face à la maladie, un jeune journaliste passionné tente de lui arracher des leçons universelles sur la politique, sur l'histoire, sur l'amour et sur la littérature.
Une victoire à gauche n'est possible qu'à une seule condition. Ne jamais oublier que notre famille, ce sont les ouvriers.
En 81, l'union de la gauche y croyait vraiment. Aujourd'hui, de quoi on parle ? Du vide ? De la maladie du président ? De sa fille ?
Le promeneur du Champ de Mars de Guédiguian avec Michel Bouquet, évidemment. Ouais. Peut-être une attention particulière à Michel Bouquet.
Tout à fait. Au moment où il est mort, j'ai eu tout de suite envie de revoir ce film pour le faire revivre. Et puis voilà, il y a des scènes. Ce qu'on vient d'entendre, par exemple, ça fait du bien en ce moment.
Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Michel Bouquet ? Vous qui êtes un
pur c'est une sorte de patriarche, de père fondateur comme ça, dans lequel on va puiser aussi bien dans ses films que quand on allait le voir jouer sur scène ou dans ses livres aussi, dans la leçon de comédie. Oui, c'est une source inépuisable, quoi. Mmh. Moi, il me fascine parce que souvent, qui disent dans les films, par exemple, même quand il dit bonsoir ou passe-moi le sel, il y a toujours un espèce de mystère. Enfin, parler n'est jamais évident pour lui. Mmh. Parler est un mystère absolu. À chaque fois qu'il parle, il ouvre un monde. Donc, c'est forcément, c'est une source inépuisable.
Félix, vous avez des acteurs de référence comme ça qui sont...
Ouais, il y a des acteurs qui me fascinent complètement. Mastroianni, dont on parlait tout à l'heure, ça, cette espèce de nonchalance concernée, de jamais être vraiment là, d'être toujours un peu à côté de son personnage. Je trouve que c'est inouï dans les films de Fellini. Bon, dans la Dolce Vita, il est exceptionnel. Après, il y a évidemment Depardieu. T'as l'impression que dans chaque mot qu'il prononce, il croque dans un fruit, comme ça. Donc c'est trop beau. Il y a Bill Murray, moi, qui me touche beaucoup, beaucoup. Généralement, des acteurs qui effacent la performance, qui effacent le travail et qui laissent jaillir quelque chose presque malgré eux. Moi, ça me touche beaucoup, carrément.
Vous savez que le film que vous aviez choisi, vous, c'est Rien à foutre.
Rien à foutre, là.
Ouais. C'est le titre du film. Hein.
Ouais, j'en ai pas rien à foutre, mais le film s'appelle Rien à foutre.
Avec Adèle Exarchopoulos.
Avec Adèle Exarchopoulos.
Joue une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Et qui a décidé de profiter de la vie, mais c'est pas si simple.
Et là, pourquoi aviez-vous choisi ce film-là?
Et ben, Adèle Exarchopoulos pourrait faire penser.
Proche de cette génération-là qui.
Non, moi j'ai rien à voir avec la génération qui est décrite dans le film. J'ai une vie plus stable, mm-hmm. moins précaire en fait. Là, c'est une génération très précaire aussi qui est montrée dans le film. Mais c'est ça tient beaucoup à la grâce d'Adèle Exarchopoulos, hein, je trouve, qui pourrait avoir quelque chose de précisément de Mastroianni en fait dans ouais. ce film, de cette manière, cette espèce de mélancolie, cette distance vis-à-vis de ironique, malicieuse et profondément mélancolique vis-à-vis de la vie. J'admire vraiment tout ce que font les metteurs en scène dans ce film. Il y a formellement et dans ce qu'ils racontent, mm-hmm. Je trouve qu'ils saisissent quelque chose de la fragilité de la vie. Voilà. C'est un prétexte en fait, le low cost et tout ça. C'est trop beau.
Rien en deux mots, hein. Le low cost.
Non, mais faut bien le prononcer. Ouais. Quoi.
Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, mince.
Bah oui, non, je précise.
Oh, mon Dieu,
je précise. Bon, c'est toujours dans les salles, ce rien à foutre. Et décidément, tout le monde nous en parle dans cette émission. La bande annonce, c'est ça.
Ah, c'est vrai.
Le métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés.
Non, papa, tu fais profondément pas comprendre en fait.
Si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, bah, je les aime pendant deux heures et puis après, salut.
You asking me to be not fair just to reach out your objective.
What I want you to do is your job.
Rien à foutre avec la sublime Adèle Exarchopoulos. Ça, c'est la recommandation de Félix.
La même que Cana Girardot hier.
Bien, ah bah voilà. Bien. Bravo Félix. Félix Moati, je finis avec vous. Votre choix musical, c'est Pete Seeger, Which Side Are You On? C'est un des pères fondateurs de la folk music avec Woody Guthrie, mais aussi un type très militant et puis un titre très évocateur. C'est un choix circonstanciel.
C'est parfaitement anodin.
Which side are you on? On écoute tout de suite Pete Seeger. Pete Seeger, Which Side Are You On? Voilà, merci Félix Moati, merci Julien Compagnie. Je rappelle merci. Que la fiction en direct Jour de Gloire, ce sera sur arte.tv, YouTube aussi, et Facebook dimanche à 19h et ensuite à revoir en ligne, et cela pendant 3 ans.
C'est
disponible
ça.
Pendant 3 ans. Bon, merci infiniment et bonne chance pour
vous. Merci à vous.
Merci à vous. Les amis. Merci Charline Roux.
Merci à vous.
À demain peut-être.
Oui, sûrement.
Si on veut. Oui, et merci à toute l'équipe de Pop Pop et à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, dans l'émission, nous recevons Mathieu Palin pour son livre passionnant Ne t'arrête pas de courir, consacré à l'athlète Toumani Koulibaly. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.
T'as vu, chérie? Il y a la police devant chez les voisins.
Ouais, ils se sont fait cambrioler il y a 2 jours.
Il y a 2 jours? Mais on n'a rien entendu.
Ni nous, ni eux, ni les autres voisins, personne. Ils s'en sont aperçus le matin en se réveillant.
Oh, chez Verisure, nous veillons sur votre logement 24h sur 24, quelle que soit l'urgence. Rendez-vous sur verisure.fr pour commencer votre diagnostic sécurité en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verisure.
Yanis Xenakis.
5 concerts les 6, 7 et 8 mai à la Maison de la Radio et de la Musique pour fêter le centenaire de la naissance de ce compositeur monumental. Ni disciple ni chef d'école, né en Roumanie de parents grecs, il s'installe à Paris. Outre des œuvres telles que Rebond, Pléiade, Zitos, Persephassa, on entendra de grandes pages signées Stravinsky, Philippe Hurel, Lisa Lim, Philippe Manoury, Yann Robin et Bastien David. Entrez au cœur du concert. Réservation maison de la radio et de la musique.fr.
Bonjour Charline Vananecker.
Bonjour Antoine, bonjour Charline.
Bonjour, qu'est-ce qui va se passer dans Par Jupiter?
Eh bien nous allons recevoir l'un des plus grands peintres contemporains français, Gérard Garouste.
Ah oui.
Ne me demandez pas comment, il s'est égaré, on ne sait pas, on l'a croisé, il s'est égaré, il est arrivé chez nous.
Mais comment est-ce possible?
On va en profiter, je ne sais pas.
Garouste,
on va tout donner.
Dans Par Jupiter.
Garouste, je vous jure.
Oh, il s'est égarousté.
Si ça se trouve, il m'a entendu, il est parti déjà, donc allez-y.
Eh bien je vais écouter ça moi. Il est 17h, j'ai hâte d'entendre les 4 popes et vous écoutez France Inter.